C'est Ludique, 9h30, 10h.
Bienvenue les amis dans C'est Ludique. Aujourd'hui au programme, je vais vous parler du jeu Fruit to Play. Ça sort vendredi, un jeu de pli à ne surtout pas manquer. Il y aura également Paul-Henri et Céline qu'on retrouvera en fin d'émission pour jeu et apprentissage avec le jeu Qui perd gagne. Et pour commencer, c'est bien sûr Anne-Gaëlle des Chroniques des Meeples qu'on retrouve. Salut Anne-Gaëlle.
Salut, bonjour tout le monde.
C'est mercredi, c'est le jour des enfants et aujourd'hui, c'est un jeu pour les plus petits.
Oui, enfin, plus petit, plus grand, tout le monde y trouvera son compte en fait. Puisque
d'accord.
Je vais vous parler à nouveau de Gameflow. Donc Gameflow, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois avec la gamme Ma Première Aventure. Qui sont des livres-jeux, un livre dont vous êtes le héros, parce qu'ils conseillent des 3-4 ans en lecture accompagnée jusqu'à 9 ans en lecture autonome. Donc ça brasse
d'accord.
quand même.
Ouais.
Pas mal les enfants, et il y a plusieurs thématiques. Là, on arrive à un certain nombre de tomes, 8 ou 9, je crois, je ne vais pas recompter, mais bref, il y a beaucoup de thématiques différentes, donc les enfants vont pouvoir aussi trouver ce qui leur plaît. Et donc là, je vous ai parlé le 8 août, je vous ai parlé de la Bibliothèque Infinie, et là, il y en a un nouveau qui sort,
d'accord.
et ça fait écho à une chronique encore plus vieille du 8 février.
D'accord.
Alors, puisque le nouveau tome s'appelle « Patty et l'épreuve des dieux ».
Ok.
Est-ce que ça t'évoque des souvenirs ou pas du tout ?
Et les preuves... Alors, je t'avouerai, zéro.
En même temps, on voit passer tellement de jeux. J'avais parlé d'un jeu pour enfants sur Patty et la colère de Poséidon, qui était un film
mais
qui
oui,
sortait au cinéma.
Exact. Mais oui,
il y avait un petit jeu de société. Et donc là, ils le sortent en livre. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu, il n'y a pas besoin d'avoir vu le film pour voir le livre. Mais c'est vrai que quand l'enfant connaît déjà l'univers, c'est chouette aussi. Moi, c'était le cas pour Ouna, elle avait joué au jeu, elle a été voir le film.
Ouais.
Mais il n'y a aucune obligation.
Ça y est, je m'en rappelle maintenant parce que j'avais passé même la bande annonce du film.
Exactement. Non, mais après, je suis coquine, hein, j'en fais exprès pour s'embêter. Et alors, avant de parler du tome en tant que tel, je fais un petit rappel, parce que même si ça fait plusieurs fois que j'en parle, certains de nos auditeurs n'ont peut-être pas entendu, mais c'est un livre dont vous êtes le héros. Les enfants vont choisir en fait leur petit personnage et vont devoir faire des choix pour avancer durant l'histoire. Alors, pas besoin de feuilles, de crayons, de papier, de post-it, rien du tout, puisqu'en fait, il va y avoir des petits trous sur les côtés, puisque les enfants vont pouvoir récupérer des choses, avoir, il va se passer des événements, en fait, sur leur route, et les petits trous sur le côté vont pouvoir permettre de sauvegarder ce que les enfants trouvent, en fait.
Mmh.
Et la magie, c'est qu'il va y avoir des grandes étapes, sauf qu'à l'intérieur de ces grandes étapes, les feuilles vont être divisées en 3, et les enfants vont devoir faire des choix.
D'accord, ok.
Et donc là, aujourd'hui, on entre dans l'univers de Patty, la colère de Poséidon. Donc c'est un livre de Roméo Aignon, illustré par Arnaud Boutle. Et dans ce livre, on peut être trois personnages. Soit Patty, la petite souris, qui est maligne et curieuse. Soit Sam, le matou passionné de théâtre. Soit Chikos, le baroudeur des airs.
Mmh.
Et donc, il faudra retrouver le casque de Jason. Donc on navigue dans la Grèce antique pour essayer de retrouver ce fameux casque.
D'accord. Et alors toi, t'es plutôt qui alors ? La petite souris ?
Ouais, moi j'aime bien Patty parce que j'ai vu le film en plus, et Patty c'est une petite souris qui est toute petite et tout le monde se moque un petit peu d'elle, mais en réalité c'est une grande aventurière.
Mmh.
Elle
et toi tu es une grande aventurière aussi.
Ouais, mais après Chikos il a une jambe en bois et il est un peu canard boiteux, donc je me dis que c'est pas mal non plus.
D'accord, ok. C'est la première fois que Gameflow fait un livre aventure avec une licence.
Oui, les autres c'était vraiment... Des histoires vraiment créées. Là, alors, c'est pas l'histoire du film.
Non.
Il y a la licence de Patty et la colère de Poséidon, mais c'est une petite histoire à côté.
Ouais, d'accord.
Même si on retrouve les personnages, ça reprend un petit peu l'histoire sans forcément être 100%. 100%. Mais,
okay.
Mais c'est très sympa. Très très chouette, surtout quand l'enfant connaît. Mais Gameflow, il nous propose aussi autre chose.
Ah.
Là, pour la rentrée, il y a eu quelque chose de très sympa aussi, c'est qu'ils ont proposé mon puzzle aventure.
Mm-hmm.
Et ce puzzle aventure, c'est le premier, donc il s'appelle Dragon. Et ça reprend, ils aiment bien faire du lien, hein, ça reprend un de leurs premiers tomes que j'ai présenté dans C'est Ludique. Alors ça, c'était l'année dernière, c'est encore plus vieux. Mais ça reprend un tome sur un petit dragon, il fallait trouver un œuf de dragon. Donc là, ça va reprendre, on va retrouver exactement les mêmes personnages qui
d'accord.
sont dans ce tome,
ouais.
à savoir Lina, Sacha, Timon. Et en fait, cette fois-ci, le dragon, il faut l'aider à le retrouver. Ils l'ont perdu, un des personnages a perdu son dragon, il faut l'aider à le retrouver. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que c'est un puzzle de 42 pièces à faire, donc on le fait entièrement.
Mm-hmm.
Et une fois qu'il est fait, on va retirer les tuiles dans un ordre précis pour faire dérouler l'histoire. Et à chaque nouvelle pièce qu'on va retourner,
ouais.
on va indice sur la pièce suivante à retourner.
D'accord.
Et en chemin, il va y avoir des petites énigmes, il va y avoir des obstacles en fait pour pimenter ce rangement de puzzle, comme on peut dire. Donc, il va y avoir des chercher trouve des énigmes, il va suivre des indices, il va falloir collecter des choses. Enfin voilà, c'est une manière de se dire, je fais mon puzzle de 42 pièces, mais après pour le ranger, et ben, c'est plus fun que d'habitude.
C'est ça, t'es pas obligé d'enlever toutes les pièces et mettre tout dans la boîte comme ça, n'importe comment.
Exactement. Et alors, au début, je me suis dit, mais comment ils vont faire ça pour rendre un rangement de puzzle ludique? Comment on fait une fois le puzzle monté, etc. Mais en fait, c'est super fluide et on découvre l'histoire en plus de ce puzzle. Donc, c'est vraiment très, très malin. Je trouve qu'à chaque fois, ce qu'ils proposent pour les enfants, ça les embarque dans des univers et ça leur donne envie de participer,
mais
en fait.
Ça veut dire que les pièces qui sont retournées, il y a des choses inscrites dessus, alors?
Et oui.
Ah oui.
Et tu les ranges petit à petit dans la boîte.
Mm-hmm. Très bien.
Donc en fait, vous faites le puzzle et on range.
Des escape puzzle alors, finalement, pour les enfants.
Oui, c'est ça. C'est ça. Embarqué dans l'histoire. Puis oui, parce qu'il y a des petites énigmes, il y a des petites choses, donc c'est... ça ressemble un petit peu à ça, mais vraiment adapté pour les enfants. Et puis, ce qui est sympa, c'est de lier l'histoire du tome avec, en gros, comme une espèce de petite suite sur ce puzzle, une petite histoire annexe.
Très, très bien. Donc, deux cadeaux à faire, un puzzle et un livre aventure.
Oui, alors voilà, c'est des idées que vous pouvez avoir pour le sapin, parce que pour les enfants, ça cartonne. Pour passer à travers les jeux vidéo, ou si vous avez déjà offert trop de jeux de société, même s'il n'y a jamais trop de jeux de société, ça peut être une alternative.
Ça dépend quel jeu de société, Angèle.
Oui,
j'en vois beaucoup dans les supermarchés en ce moment.
Ah oui. Non. En Carlo Crado, on s'en passera, merci.
C'est ça, on se passera de ces jeux-là. Ah,
non, mais c'est vrai qu'en boutique, je vois souvent des gens qui me disent « Ah, est-ce que vous avez des choses ?» Et le livre, c'est un univers plus connu parfois. Donc les gens se disent « Ah bah tiens, ça peut être un premier truc chouette,
ouais.
Et puis on verra après pour un jeu ou autre. » Donc c'est une très bonne entrée, puis c'est des livres vraiment qualitatifs.
Très bien. Eh ben merci beaucoup, Angèle, et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de C'est Ludique.
Exactement, je vous souhaite une bonne semaine ludique.
Salut.
Salut.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
On vous le dit, on vous le répète, pour votre santé, il faut manger chaque jour 5 fruits ou légumes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une salade de pointe, je vous propose, mais une salade de fruits. Au programme, des pommes, des bananes, comme dirait les mignons banana, et des fraises et des figues. Voici Fruits tout plaît, un jeu de Romaric Galonnier et Luc Raymond que nous propose en cet automne Explorate. Alors une chose est sûre, si vous n'avez pas pris encore vos vitamines, j'ai ce qu'il vous faut. Voici un jeu de plis rempli de vitamines. Fruits tout plaît, c'est des cartes vertes, les pommes, les rouges, les fraises, les jaunes, les bananes et enfin les violettes, les figues. Elles ont des valeurs allant de 1 à 20. En début de partie, chaque joueur va recevoir une main de 6 ou 7 cartes hein, selon le nombre de joueurs, sachant que l'on peut jouer hein, de 2 à 6, puis on va former une rivière de 7 cartes. Contrairement aux autres jeux de plis, hein, ce n'est pas un joueur qui va lancer le pli, mais l'une des cartes de la rivière. On va donc prendre la première carte de la rivière et la poser au centre de la table. Ensuite, tout le monde va jouer une carte de sa main face cachée, puis tous les joueurs vont retourner leur carte. C'est le joueur qui se rapproche le plus hein, de la carte avec une priorité à la couleur qui remporte le pli. Par exemple, la carte au centre est un 5 jaune, Johan a joué un 4 vert, Maël un 5 rouge et moi un 11 jaune. C'est moi qui remporte le pli car j'ai joué une carte jaune. En revanche, Simon 11 était vert. C'est Maël avec son 5 rouge qui remporte le pli car c'est lui qui est le plus près de la carte cible. Le type de carte, hein, la couleur est la priorité pour remporter le pli. Si la couleur n'est pas jouée dans ce cas, eh bien c'est la valeur qui compte. Important, contrairement au jeu de pli classique, vous n'êtes pas obligé de jouer une carte de la couleur. Vous jouez la carte que vous voulez. Petite règle originale, si deux joueurs ont le même écart par rapport à la carte cible, eh bien dans ce cas, elles ne sont pas valides. On regarde le joueur qui a la carte la plus proche ensuite et c'est lui qui remportera le pli. Alors après avoir remporté le pli, vous posez vos cartes par type de fruit, couleur, en colonne. Les autres, ceux qui n'ont pas remporté de pli, eh bien doivent piocher une nouvelle carte. On va faire ça 7 fois pour utiliser hein, les cartes cibles. Alors bien entendu, hein, vous connaissez à l'avance les 7 cartes de la rivière. Vous pouvez donc préparer votre jeu. En revanche, vous ne savez pas ce que les autres joueurs hein, ont dans leur jeu. Une fois le 7ème tour terminé, on va compter les points, ou plutôt les fruits. Et votre score va dépendre de la plus petite et de la plus grande colonne. Vous avez 7 cartes pommes, 3 figues, 2 bananes et 0 fraises. On multiplie 7 par 2 égale 14 points. On ne va pas compter les fraises, hein, vu que vous n'en avez pas. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'il faut la ramener. Alors si par hasard, vous n'avez que des pommes, dans ce cas, bien, vous avez multiplié la seule colonne, vu que c'est votre plus petite et votre plus grande. Ça vous fait donc 7 x 7 égale 49 points. Eh ben ouais, c'est quand même pas évident hein, de n'avoir qu'un seul type de fruit lors du scoring, mais par contre, ça peut faire mal au niveau des points. En ramassant des cartes, il est possible d'avoir des fruits pourris. Alors ce sont les cartes de valeur 13. Un fruit pourri en contamine un autre. Et c'est bien connu, une fraise qui est pourrie en contamine une autre, donc vous devez enlever une autre carte fraise lors du décompte. Alors on va enchaîner comme ça une deuxième manche, on va remettre 7 cartes dans la rivière, piocher 6 ou 7 cartes hein, pour faire notre main, mais on va ajouter une nouvelle carte, le fruit collectif. C'est d'ailleurs le joueur avec le moins de points qui choisit ce fruit. J'ai moins de points, je choisis la figue. Cela veut dire que lors du décompte final, tous les joueurs ont déjà une figue, mais ce fruit peut être annulé par le fruit pourri. Si vous ne l'avez pas en fin de manche, eh bien vous avez une figue. Si c'est la seule, bah ça sera compté comme la plus petite colonne. Du coup, eh bien multiplie la plus grande colonne par 1. Autant dire, bah, ça va pas vous faire beaucoup de points tout ça. Pour la troisième manche, c'est la même chose, sauf que l'on rajoutera deux fruits collectifs et c'est le joueur qui a le moins de points qu'il choisit. Le fruit pourri annule ces deux fruits, si vous l'avez, ça vous avez bien compris. En fin de troisième manche, le joueur avec le plus de points l'emporte tout simplement. Fruit to play, c'est un jeu de plis original, familial, où il faudra faire attention aux plis de vous remporter. Il y a de l'interaction, les parties sont rapides, bravo à Explorate qui, après Fédération, nous sort un petit jeu très vitaminé. Alors je finirai sur cette citation d'un ancien président de la République, « Manger des pommes ». Ou j'aurais pu finir avec une citation du célèbre présentateur Philippe Risoli. Mais j'ai hésité, elles sont quitas, les bananas. Ok, je fais ce que je peux, ne ramène pas ta fraise car je peux être mi-figue, mi-raisin.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
De jeux mais aussi d'apprentissage grâce à Paul-Henri et Céline. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle « Qui perd, gagne ». Alors c'est pas mal ça comme titre, parce que ça veut dire que quand on perd, on gagne. Ça me plaît déjà.
tu fais bien de le souligner, Matt, parce qu'effectivement, le « qui perd », c'est le père P-A-I-R-E.
Ah, d'accord, ok. Voilà, bon. Alors, comment ça se passe, ce jeu?
Eh bien, justement, tout est dit dans le titre, en fait, « Qui perd, gagne ». On a des images qui sont au milieu de la table.
Ouais.
Qui ont des numéros qui du coup indiquent pour tout le monde les 11 images avec lesquelles on va jouer la manche. Et dans nos mains, on a tous en fait 11 cartes numérotées de 1 à 11. Et l'idée c'est de mettre les cartes par paire. Donc en fait on va faire 5 paires de 2, ce qui va faire 10 cartes.
Ouais.
Et on va avoir une carte qui va rester toute seule, avec laquelle on va aussi pouvoir marquer des points, mais qu'on aura associé à aucune autre carte.
D'accord.
Et en fait, ce qui est super intéressant avec ce jeu, c'est qu'on est dans ce principe de jeu qu'on aime beaucoup, un peu comme à la une animaux, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à faire de l'association d'idées en mettant les cartes deux par deux, mais on ne marquera des points que s'il y a des personnes qui ont fait les mêmes associations que nous.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vérité, et quand, par exemple, on va avoir sur la table un escargot, il y en a qui vont associer l'escargot avec le scotch, parce qu'ils vont dire que ça a la même forme.
Ouais.
Il y en a qui vont associer le scotch avec le crayon en disant c'est du matériel de classe.
Ouais.
Et il y en a qui vont associer le scotch avec le carton parce qu'ils vont dire tout ça c'est du matériel pour faire des cartons, pour faire des colis.
Ouais.
Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que quand tu vas construire en fait tes 5 paires, mais tu vas devoir faire un petit peu par évidence. Tu vas devoir croiser les différentes représentations. Tu vas essayer de partir de ce qui est le plus flagrant et en espérant que tout le monde aura un petit peu le même regard que toi.
Ouais, c'est ça, qui n'est pas évident forcément, parce qu'on n'a pas forcément le même regard que les autres. Hein.
C'est ça, surtout quand on joue avec des catégories d'âge différentes.
Ouais.
Et quand on joue, Bessine va vous en parler, avec nos enfants qui souvent ont leur prisme bien à eux et qui ont du mal à se dire que les gens peuvent penser différemment.
Moi, par exemple, pour ce que tu viens de dire là, j'aurais mis le scotch avec le carton. Parce que.
Mais carrément.
C'est logique.
Et en fait,
tu fais des colis.
Et en fait, tu vois ce qui est bien, c'est que en fait, c'est contextuel. Parce que si tu as le scotch avec le carton, tu vas te dire, bon, mais c'est bon, c'est le colis. Mais s'il n'y a pas le carton, tu vas peut-être rapprocher le scotch du crayon qui te fait penser à du matériel de bureau.
Ouais.
Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va toujours changer. Et du coup, il y a un renouvellement qui est incroyable parce que s'il y a plein de mots dans le même registre, plein d'images dans le même registre, eh bien, on va devoir créer des priorités, s'inventer des priorités.
Ouais.
Alors que des fois, il y a des choses qui sont flagrantes.
Alors, comment ça se passe en classe, du coup, Céline?
Alors déjà, c'est un jeu qu'on peut proposer à partir du cycle 2 et du cycle 3.
Ouais.
Ça peut éventuellement toucher des plus petits, mais comme nous, on aime le dire, on aime tirer parti du jeu plus largement et aller plus dans la stratégie et que ça soit plus intéressant. Donc même s'il est accessible à des plus jeunes parce qu'il ne nécessite pas nécessite pas, pardon, d'être lecteur, puisqu'il n'y a que des images.
Ouais.
Voilà, on préconise plutôt à partir du cycle 2.
D'accord.
Donc, pour y jouer, ça nécessite simplement de reconnaître les numéros de 1 à 11 et d'apparier les images de par deux. Donc, ça, c'est assez simple.
C'est des images qui sont assez simples, de toute façon.
Oui, elles sont facilement reconnaissables. Alors, il y en a quelques-unes qui peuvent poser problème, mais ça va être tout l'intérêt ensuite dans l'argumentaire et puis dans la résolution de venir justement justifier et qu'est-ce qu'on y a vu derrière cette image.
Ouais.
Alors, j'ai voulu le ressortir hier justement et il y avait une image d'un microscope. Alors, c'était rigolo parce qu'il y a des enfants qui ont vu un aspirateur, il y en a d'autres qui ont vu un appareil à regarder les étoiles pour se diriger sur l'eau.
D'accord.
Donc, ça a développé le langage et ça, c'était super intéressant. Ensuite, il permet, bien évidemment, de faire du lien. Ça leur permet d'expliquer leur choix, d'être à l'écoute pour les autres, d'apporter un argumentaire. Et finalement, ce qui va le plus nous intéresser, nous, en classe, c'est que ça va les amener à se décentrer. Parce qu'ils vont être dans l'écoute des autres propositions, dans la compréhension que finalement, il n'y a pas une vérité, mais il y a plusieurs possibilité.
Ouais.
Et cette multiplicité des possibles, ça c'est quelque chose qui est bien recherché pour nous en tant qu'enseignants.
Ouais, et puis c'est pour ça qu'il ne faut pas le jouer trop jeune, parce que sinon ils vont s'attacher uniquement à la couleur et à la forme.
Ah bah oui. Ouais.
Et du coup, tu vois les débats et le côté explicitation, comme disait Céline, là, qui est vraiment l'intérêt du jeu, d'évoquer plein de champs différents, de faire plein de liens, il va être un peu plus pauvre. Donc on va avoir l'impression d'y jouer, mais pour que vraiment le jeu tourne à plein régime, il faut déjà avoir des enfants qui puissent avoir un petit peu de culture et faire du lien avec différents domaines.
Ouais, parce que
c'est un jeu dans lequel aussi on peut s'intégrer, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on va apporter aussi d'autres éléments, d'autres visions, desquelles ils vont se nourrir aussi.
Ouais, donc quand tu parlais tout à l'heure de scotch et d'escargot, forcément ça a la même forme, donc c'est plus simple pour les tout petits de dire bah voilà, ça a la même forme, l'escargot et le scotch. Par contre, ça n'a rien à voir. Si on peut peut-être aller un petit peu plus loin en disant que le scotch ça colle, l'escargot ça colle aussi.
C'est ça. Et en fait, tu vois, moi j'y avais pas pensé, et maintenant que tu me dis ça, mais il y en a d'autres qui vont dire ah, mais oui, mais moi j'ai mis la colle à l'escargot parce qu'il colle, et l'autre qui va te dire ben non, mais moi j'ai mis le crayon avec la colle parce que c'est sur le bureau. Et en fait, ce qui est super dans le jeu, c'est que quand tu as tes 11 cartes dans les mains, tu dois te créer des priorités.
Ouais.
En te disant, bon, mais ça, c'est sûr, c'est les affaires de bureau. Et si à la fin, par contre, dans tes mains, il te reste l'escargot et la colle, tu vas te dire, mais c'est quoi le lien? Ah, mais oui, ils collent les deux. Mmh. En fait, tu as même des liens qui apparaissent en cours de partie. Et ce qui est sympa aussi, on en parlait ici en préparant l'émission, c'était que justement, des fois, il y a des associations auxquelles tu n'as pas pensé. Et quand tu as des autres qui te l'expliquent, tu dis, ah oui, est-ce que tu me dis... C'est encore plus évident que ce que moi je pensais. Ça me fait penser au jeu, c'est évident aussi, tu sais, des fois,
on en
parle. Et tu te dis, ah oui, et quand l'autre m'explique, ah oui, je comprends qu'en fait, c'était peut-être plus pertinent que ce que moi j'avais vu.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé donc, de Qui perd gagne. C'est un tout petit jeu hein, qui est édité par le Scorpion Masqué, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, et qui est un jeu de Stephen Guen, et qui se sort vraiment avec tout le monde.
Merci, et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Salut.